Bonjour. Ah ben ça marche, c'est magique ça. Oula. Bonjour, bonjour. Christophe Chaud, bienvenue. Bonjour au Palais des Congrès. Je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui nous regardent, tout ça. Christophe Chaud, Microsoft. Rapidement, chez Microsoft, je m'occupe pour faire court de l'ensemble de l'écosystème logiciel en France, donc en particulier des éditeurs de logiciels. Et si je suis là aujourd'hui, donc, c'est effectivement pour vous parler un peu de marketing. Alors, comment la French Tech révolutionne le marketing? Je devrais être avec Microsoft, évidemment, puisque c'est moi qui suis là. Mais non, justement, ce n'est pas forcément l'objet. C'est de dire, en fait, comment est-ce qu'aujourd'hui, la technologie change le marketing et comment Microsoft, finalement, veut vous parler, à vous, personne de marketing sur ce domaine, et pourquoi on pense qu'on a quelque chose à vous dire. Alors, rapidement, donc, je vais faire quelque chose et puis après, j'aurai le plaisir de vous présenter Sociable, Tokiwoki, Realitix et Brainit, qui sont quatre jeunes pousses, comme on dit en bon français, que nous suivons avec beaucoup, beaucoup d'intérêt et que nous cajolons depuis quelques temps maintenant, et qui ont toute la particularité d'être basées sur des technologies qui n'existaient pas il y a 3 ou 4 ans, globalement, qui n'auraient pas pu faire le business qu'ils font aujourd'hui sans des technologies qui sont extrêmement modernes. Et ils vous le prouveront tout à l'heure. Alors, pourquoi ça? Enfin, finalement, si on regarde une des vertus du changement chez Microsoft qui a lieu depuis quelques temps, qui est impulsé par notre PDG, Satya Nadella, qui est en France en ce moment, voilà, il a un peu résumé ça en disant « Our industry does not respect tradition, it only respects innovation ». Et c'est quelque chose d'extrêmement vrai qu'on a peut-être parfois oublié chez Microsoft. On a eu la chance de se réveiller à temps parce qu'il y en a qui l'ont oublié et qui ne s'en sont pas relevés. Hein. Souvenez-vous de quelques mastodontes des années 80, je pense à Digital par exemple, qu'on considérait comme étant une des entreprises les plus brillantes du monde et qui a disparu en 5 ans faute d'innovation. Donc l'enjeu pour toutes ces entreprises de la technologie, c'est l'innovation. Alors l'innovation, c'est quoi? En fait, c'est très divers l'innovation si on regarde, parce que on peut considérer que Microsoft innove, j'espère que je vais pouvoir vous le démontrer un petit peu, mais finalement c'est assez peu visible par quelqu'un qui est un utilisateur final de l'innovation de Microsoft. Alors quand même Office, donc Office 365, ça c'est quelque chose qui est très visible par l'utilisateur final. Et oui, on a amené beaucoup d'innovations dans la manière de collaborer autour de ce qu'on appelle la productivité. Certes, ça c'est vrai. Mais au-delà de ça, les produits de Microsoft, ce sont des produits qui sont éminemment techniques. Finalement, si je prends de la même façon les produits de quelqu'un comme Intel, Intel innove tous les jours. Personne ne nie l'innovation qui est apportée par Intel sur ses processeurs. Et pourtant, pour vous, c'est quoi la tangibilité de cette innovation? Elle n'existe pas. C'est-à-dire que finalement, que vous ayez un processeur Intel ou autre chose, pour vous, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, pour ce que vous pouvez faire avec votre ordinateur, ça veut dire quelque chose. Et c'est la même chose pour les produits de Microsoft. Et là où je veux en venir, en fait, avec tout ça, c'est de dire que les vecteurs qui portent l'innovation que Microsoft produit sous forme de logiciels, ce sont les entreprises de logiciels. Ce sont des éditeurs de logiciels, ce sont des start-up qui finalement nous permettent de réaliser quelque chose que M. Nadella a dit derrière comme étant la mission de Microsoft, qui est « Empower every person and every organization on the planet to achieve more », qu'on va traduire comme étant « Empower », parce qu'il n'y a pas de traduction de ce mot en français, je suis désolé, « Empower toutes les personnes et toutes les organisations pour faire plus ». Et si je veux juste élaborer un tout petit peu là-dessus, pardonnez-moi l'anglicisme encore une fois, si je veux juste développer un tout petit peu là-dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, nous, en tant qu'êtres humains, ou en tant que partie d'une organisation, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous limite, vraiment, dans notre usage de la technologie? Je vais vous poser une question. Excusez, je vais le mettre dans ce sens-là. Une question, vous avez tous quelque chose comme ça. Combien vous avez d'applications dessus? En moyenne, vous devez avoir, vous devez respecter les statistiques, probablement être un peu au-dessus, compte tenu de qui vous êtes. Vous devez avoir entre 80 et 110 applications sur votre téléphone. Il y a 24 heures par jour. D'accord, ça veut dire qu'en moyenne, si vous utilisez toutes ces applications, on va arrondir à 100 pour, les cours, pour faire court et à 25, vous en utilisez 4 par heure. Ça n'a pas de sens. C'est faux. Donc en fait, à un moment, vous avez jugé utile d'installer toutes ces choses, mais en pratique, vous n'avez pas le temps de les faire. Donc si je veux résumer une seule chose, aujourd'hui, pour dire « achieve more » en particulier, c'est finalement me permettre à moi, en tant qu'utilisateur, de gagner du temps, de faire plus de choses plus vite. Plus vite, pas au sens de la productivité, mais avec finalement des éléments, des applications, appelons ça, qui vont nous permettre d'aller plus vite et de faire plus de choses. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut prendre cette notion d'innovation et la manière dont nous la voit. Et encore une fois, ce n'est pas nous qui l'amenons directement à votre usage personnel. Ceux qui vont faire ça, ce sont effectivement nos partenaires. Et nos partenaires aujourd'hui, qui développent du logiciel, scrignonneux, voilà, ça c'est notre hardware, aujourd'hui on les bichonne bien. Et on investit beaucoup, effectivement, pour aider un certain nombre de partenaires à réussir. Donc aujourd'hui, il y a 4 représentants ici. Ils n'ont pas pris tous les 70 millions, non, ça, pas du tout. Mais vraiment, on a un investissement massif dans l'écosystème qui dépasse d'ailleurs largement le cadre d'usage de nos technologies. Il ne s'agit pas de dire on va vous payer pour utiliser ou on va vous aider à hauteur de 70 millions pour utiliser nos technologies. C'est plus vaste que ça. On considère que l'enjeu, c'est un écosystème global. Et donc, vous verrez dans l'incubateur de Microsoft, qui s'appelle Microsoft Accelerator, vous verrez qu'il y a des entreprises qui sont très, très peu adhérentes à nos technologies. Et ce n'est pas un problème pour nous. Ce qu'on veut, encore une fois, c'est développer de l'usage, développer de l'innovation. Alors là, je parle de start-up, mais évidemment, quand on parle de nos partenaires, de gens qui travaillent avec nous sur du cloud, sur de l'innovant, il n'y a pas que des start-up. Vous avez des gens comme Sprinklr qui sont déjà bien implantés. Donc Sprinklr, c'est quelque chose qui, agrège le CRM et le social. En tout cas, c'est l'ambition qu'ils ont. Et puis des gens comme Adobe, qui est quand même là aussi un acteur de l'innovation assez incroyable. Si on se souvient d'Adobe, c'est quoi il y a 15 ans ? Adobe, c'est de la création d'images, basiquement. Illustrator, des choses comme ça. Et aujourd'hui, en 15 ans, la révolution d'Adobe, c'est de devenir un des leaders du marketing digital, d'avoir complètement repensé son métier, son business model, tout en gardant un pilier sur les softwares qu'il avait développés depuis longtemps. Donc des grosses entreprises comme ça, vous avez entendu parler peut-être de GE, qui vient d'annoncer au niveau mondial un partenariat avec nous, pareil, sur notre offre cloud. Et tout ça, si on regarde, c'est vraiment un mouvement de fond qui a lieu et sur lequel nous, on investit massivement parce qu'encore une fois, l'innovation pour vous, c'est au travers de ces gens-là qu'on va la faire. Il faut que j'accélère, je crois. Alors pourquoi ? Je crois que j'ai assez dit pour que nos technologies soient largement adoptées. D'abord parce qu'en plus, il y a un côté tout à fait mercantile là-dedans, qui est de dire que les startups d'aujourd'hui sont les stars tout court de demain et qu'on sera ravis de les avoir avec nous. Donc, messieurs, rendez-vous dans quelques années. Et puis pour effectivement donner vie à nos technologies. Décidément. Voilà. Et donc pour illustrer un peu ça aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a à peu près 40% de nos revenus cloud globaux, d'accord, donc les chiffres étant à peu près publics, aujourd'hui ça fait à peu près 11 milliards, 40% de ces 11 milliards viennent effectivement directement d'éditeurs de logiciels ou de start-up. Donc aujourd'hui en France, c'est à peu près 3500 entreprises qu'on accompagne, 3500 start-up qu'on accompagne, et au niveau mondial, plus de 100 000. Je vais passer assez vite sur ce qui reste. On fait plein de choses avec ces gens-là, et en particulier dans le domaine marketing, aujourd'hui, on en a sélectionné 33. Je pense que toutes ces présentations seront disponibles, je vous invite à aller les voir. On a pris les 4 meilleurs aujourd'hui, bien sûr. On a sélectionné 33 qui nous semblent innovants dans ce domaine du marketing. On décline la même chose dans d'autres domaines, sur le domaine des finances d'entreprise, sur le domaine de HR, dans des secteurs verticaux, des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec eux ? Qu'est-ce qu'on fait avec vous ? Excusez-moi. Avec eux, on les aide à se développer. Et avec vous, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour ça ? Il y a ce type d'événement. C'est-à-dire qu'on va effectivement faire en sorte qu'on fasse pitcher des startups devant des audiences qu'on pense pertinentes pour elles. Mais on peut aussi travailler directement avec vous. Vous êtes ce qu'on appelle des clients finaux, vous avez des problématiques. On travaille beaucoup avec des équipes en idéation justement autour de notre écosystème pour vous aider à, j'allais dire, l'appréhender, vous aider à trouver le meilleur de notre écosystème pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait autour d'un projet ? On peut vous aider à sélectionner des éditeurs de logiciels ou des startups qui sont pertinentes. On peut organiser des speed dating, c'est-à-dire que globalement, on prend une dizaine de personnes d'une entreprise, une quinzaine de startups, et on les fait se rencontrer rapidement à la matière des speed dating. Voilà, on peut faire des concours, des pitchs inversés. Alors, le pitch inversé, c'est très intéressant. C'est-à-dire que jusqu'ici, on a des startups qui défilent devant un jury. Et puis le jury qui à la fin donne sa sentence, et généralement la sentence ça s'exprime sous forme de dire je peux éventuellement penser à investir dans vous ou pas. Là on va faire le contraire, on va prendre un bon gros client, souvent quelqu'un qui a plein de problèmes, et on va le faire pitcher ses problèmes devant une quinzaine de startups qui vont lui proposer des choses de manière complètement, j'allais dire, pareil, non structurée, pour voir ce qu'il en sort. Et il en sort des choses très intéressantes en termes de projet. On a un accélérateur dans lequel, effectivement, on peut vous intégrer pendant quelques temps. Il y a écrit visite, mais ça va beaucoup plus loin que ça. On a également des partenariats avec un certain nombre d'incubateurs verticaux, je pense à IoT Valley, Numa, etc., avec qui, finalement, là aussi, on travaille avec des clients pour organiser des points de contact réguliers et faire en sorte qu'il y ait une possible détection des meilleurs partenariats. Et puis globalement, accompagner aussi vos propres spin-offs, parce que j'ai envie de dire, la plupart aujourd'hui des entreprises, vous venez de cet article de Wired il y a quelques temps déjà, je pense que c'était il y a 7-8 ans, c'était « Every company is a software company ». Ce n'était pas vraiment une réalité à l'époque, ça le devient quand même beaucoup plus aujourd'hui, si vous regardez les grands groupes français, il n'y en a pas un qui n'ait pas spin-offé une ou deux startups qui s'occupent de développer du logiciel, jusqu'à même nos grandes entreprises d'énergie, EDF, Engie, etc., qui en sont là aujourd'hui. Et pour ça, donc j'en ai déjà parlé, on peut organiser un certain nombre de choses, des digital marketing, du speed dating, du river speech, j'en ai parlé, donc avec quelques exemples, bref, hop là. Et voilà, et sans plus tarder, je vais passer la parole à Sociable, Jean-Louis, qui va vous parler de la révolution de l'engagement des collaborateurs dans le social aujourd'hui. À toi, Jean-Louis.
Bonjour, Jean-Louis Bénard, je suis le dirigeant et fondateur de Sociable, une plateforme d'employé advocacy et de social selling. Avant de vous présenter la plateforme, juste pour vous dire un petit peu qui on est, nous existons depuis maintenant un peu moins de 3 ans. En 3 ans, on a pas mal grandi, on est présent en France, on a également des bureaux à New York et à Londres. Notre plateforme est aujourd'hui utilisée dans un peu plus de 60 pays, avec des déploiements assez massifs pour certains de nos clients. Microsoft est un de nos clients. On a déployé dans 40 pays sur à peu près 15 000 collaborateurs. BNP Paribas, on est en train de déployer sur 100 000 collaborateurs. Decathlon sur 10 000 vendeurs en magasin. Voilà, donc on a des déploiements assez massifs. Alors, l'enjeu en fait de l'employé advocacy, c'est quoi? C'est que l'avènement des réseaux sociaux fait qu'aujourd'hui, le rôle des collaborateurs et leur capacité à devenir des avocats, voire même des social sellers, devient quelque chose de fondamental. Et en fait, l'intérêt, c'est l'effet de levier qu'on peut avoir au travers des collaborateurs. 1000 collaborateurs qui ont chacun 500 connexions sur LinkedIn ou Twitter, ça veut dire que vous pouvez potentiellement toucher 500 000 personnes au travers de 1000 collaborateurs. Et ce n'est pas simplement une question de reach, mais c'est aussi une question d'engagement, parce qu'un contenu qui a été partagé par quelqu'un que vous connaissez, votre capacité à lui faire confiance, à le liker, à le repartager, va être beaucoup plus importante que si vous avez été touché par une publicité sponsorisée sur LinkedIn, sur Twitter ou sur Facebook. Donc, que fait la plateforme? Donc, la plateforme, elle est disponible, bien sûr, sur les 3 stores, iOS, Android, Windows Phone. On a les entreprises, par exemple, on a déployé sur les 4000 collaborateurs de PwC France. C'est un scénario 100% mobile. Elle est disponible sur le web, bien sûr. On a des versions complètement intégrées à Office 365 et SharePoint. La plateforme va agréger dans une interface qui est super simple, parce que c'est ça l'enjeu. Il faut que, pour pouvoir déployer sur 50, 100 000, 200 000 collaborateurs, il faut que ce soit très, très simple d'utilisation. Elle va agréger dans une interface très visuelle des contenus qui peuvent venir, bien sûr, de vos flux officiels, LinkedIn, Facebook, Twitter, de plateformes de curation comme Scoopit, Curata, voire même de réseaux sociaux d'entreprise comme Yammer par exemple. Et puis il y a des fonctions User Generated Content qui sont disponibles sur la plateforme, donc les collaborateurs peuvent eux-mêmes proposer du contenu. Ce contenu est organisé en chaînes thématiques auxquelles le collaborateur peut être abonné par défaut. Il peut s'abonner, se désabonner, il peut avoir d'ailleurs tout ou part de visibilité sur ces contenus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien sûr lire le contenu, et ça on va déjà traquer ce qu'il lit réellement. Il peut donc contribuer, proposer du contenu pertinent en mobilité ou du contenu pertinent qu'il a trouvé sur le web. Et puis, il va le partager à son réseau de contacts. Hein, donc, on a bien sûr dans son réseau de contacts des gens qui peuvent être des prospects, des clients. On peut avoir des scénarios également marque employeur où on va partager du contenu, des offres d'emploi auprès de son réseau et potentiellement des candidats. Derrière, qu'est-ce qui va se passer sur les audiences? On va faire un certain nombre de choses. On va traquer, en fait, on va mesurer tout ce qui se passe au niveau de l'audience. Donc, par exemple, si un collaborateur partage un contenu qui aboutit à une landing page avec un formulaire d'enregistrement, on va pouvoir pousser vers votre CRM, vers votre Marketo, le fait que ce lead est venu grâce au partage de tel collaborateur sur tel réseau social. Donc, vous avez une traçabilité complète de la génération de lead grâce à vos collaborateurs. On a également, par exemple, via un partenariat avec Radium One, qui est l'une des principales plateformes de retargeting du marché, la possibilité de retargeter toutes les personnes qui ont cliqué sur les liens partagés par vos collaborateurs. Donc, vous pouvez, 6 mois après, déclencher des campagnes de retargeting. Derrière, on va avoir beaucoup d'analytics. Bien sûr, on va vous permettre de suivre quel est le contenu qui génère le plus d'engagement, à la fois au niveau des collaborateurs, ce qu'ils lisent le plus, ce qu'ils partagent le plus, et bien sûr, ce qui génère le plus de clics auprès de leur audience. Donc ça, ça vous permet d'ajuster votre stratégie de contenu. Ça vous permet également, avant une campagne de paid media, de tester du contenu à la fois auprès de vos collaborateurs et auprès de vos audiences. Et encore une fois, gardons en tête, 10 000 collaborateurs, c'est 5 millions de personnes que vous pouvez toucher, sur lesquelles vous pouvez avoir ce type de retour. Et on va bien sûr mesurer la performance de vos collaborateurs, c'est-à-dire quels sont ceux qui sont le plus engagés en termes de lecture, en termes de partage, et quels sont les plus grands influenceurs, ceux qui génèrent le plus de clics vers vos assets. Donc, dans des démarches social selling, ça va être extrêmement intéressant. Vous allez pouvoir rewarder les personnes qui sont les plus engagées. Pour que tout ça fonctionne, on a à la fois de la gamification qui va créer de l'engagement, c'est-à-dire quand un collaborateur partage du contenu, il gagne des points. Quand il va proposer du contenu qui est retenu par l'administrateur, il gagne des points. Si d'autres collaborateurs partagent le contenu qu'il a proposé, il gagne des points. Possibilité de créer des challenges autour d'un événement. Un exemple, en ce moment, Microsoft a un challenge dédié à leur gros événement Microsoft Experience. Donc, les collaborateurs ont été incentivés pour partager du contenu autour d'Experience. Et puis, pour que les collaborateurs reviennent, on a bien sûr des newsletters, de la notification sur mobile, soit automatisée. Donc, on va pousser aux collaborateurs les 10 derniers contenus, par exemple, des chaînes auxquelles il est abonné, mais vous allez aussi pouvoir cibler des segments de collaborateurs en fonction de leur engagement sur la plateforme pour leur pousser du contenu pertinent à partager. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, si d'ailleurs le format ouvre à des questions ou pas. Alors, en fait, quand la question est comment le contenu est partagé à l'extérieur, c'est très simple. Sur l'interface, en fait, le collaborateur a des contenus, il peut les regarder, et puis via des boutons de partage, il peut choisir de partager sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. C'est vous d'ailleurs qui définissez les boutons de partage que vous allez activer. En Allemagne, on active par exemple Xing parce qu'on s'adapte aux réseaux locaux. En Russie, ça va être plutôt VKontakte, des pays où LinkedIn est beaucoup moins présent, mais où d'autres réseaux locaux sont fortement présents. Et c'est le collaborateur qui choisit les réseaux sur lesquels il va partager. Il le fait depuis l'interface. Il peut aussi planifier ses partages. Donc, par exemple, en une semaine, il peut dire « lundi, je partagerai ça sur LinkedIn, ça sur Twitter ». Il peut faire cette planification à l'avance. Oui. Alors, la question, en fait, c'est est-ce qu'on est capable de mesurer finalement le taux de transformation de ces partages par rapport à des canaux traditionnels ou du paid media, par exemple. Donc, effectivement, en fait, à chaque fois qu'un contenu est partagé, on a notre propre shortener d'URL. Donc, on va traquer en fait tous les clics qui sont effectués. On va pouvoir mesurer d'ailleurs le ratio entre clics et exposition. Et on a des taux de transformation qui sont effectivement significativement plus élevés, c'est-à-dire en moyenne 3 à 4 fois plus élevés que de la publicité. Et bien sûr, quand vous avez des équivalents paid media, vous avez des effets de levier importants, parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez la plateforme, plus un collaborateur va partager du contenu, plus vous acquérez du clic, mais avec des prix qui sont fixes, puisque c'est sous la forme d'un abonnement annuel. Alors, La question est quel est l'impact du rachat de LinkedIn sur notre solution. Alors juste pour vous informer, effectivement, on pourrait se dire, d'ailleurs, comment Microsoft a réagi par rapport à ça. Donc Microsoft Corp, cet été, s'est réengagé auprès de Sociable pour 2 ans. Hein, donc voilà, on est plutôt dans une logique de collaboration et les outils sont assez complémentaires, c'est-à-dire que LinkedIn, notamment via le Sales Navigator, est un outil de contact, de prise de contact des collaborateurs, mais il faut des outils aussi qui amènent aux collaborateurs du contenu prêt à partager et surtout via la gamification. De l'incentive, parce que finalement c'est ça la clé, il faut que le collaborateur soit motivé et cet aspect de gamification joue un rôle important, on le voit sur des déploiements qui sont massifs, certains clients ont choisi de ne pas activer la gamification, dès qu'on a la gamification qui est activée, on a des leviers d'engagement qui sont très forts.
Si je peux me permettre de donner un témoignage personnel, je vous parlais tout à l'heure de gagner du temps et Sociable, on est un peu là-dedans, c'est-à-dire que moi finalement il y a plein de choses que j'ai envie de partager. Il se trouve que mon temps, pour le coup, j'ai un peu de mal à en dégager beaucoup. Et finalement, le fait qu'on m'offre une bibliothèque de contenu mise à jour régulièrement, sur laquelle je peux m'appuyer pour faire une communication plus brève, c'est-à-dire que je n'ai pas finalement à écrire un article de fond, etc. Je relaye une information qui m'est proposée tout en la commentant moi-même. C'est vraiment quelque chose qui, dans ma vie quotidienne, moi, m'a aidé à développer une communication entre guillemets sociale, au sens réseaux sociaux, j'entends, beaucoup plus active depuis à peu près 18 mois maintenant.
Très bien, merci. Je passe la parole à
Toki Boki.
Voilà, super.
Est-ce que ça marche? Je sais pas si ça marche.
Regardez monsieur là-bas.
Ça marche? Super. Alors, le temps de faire défiler, je me présente. Je m'appelle Mickaël. Je gère l'équipe commerciale chez Toki Boki. Hop. Donc Toki Boki, pour entrer dans le vif du sujet, ce qu'on fait, c'est qu'on recrute et on active des communautés d'ambassadeurs pour nos clients. Nos clients sont soit des marques, soit des sites e-commerce, soit des sites éditoriaux. Donc concrètement, il y a 2 étapes. 1, le recrutement. Donc nous, notre but, ça va être de repérer des gens qui vont avoir de la valeur ajoutée pour vous, les identifier, et ensuite les activer, créer de la valeur à partir de ces communautés. Donc comment on recrute des communautés d'ambassadeurs? Assez simplement, on va donner la possibilité à tous les visiteurs de votre site de parler entre eux via un module de chat qu'on plug en bas à droite de toutes vos pages. Et nous, ce qu'on va faire chez Toki Boki, c'est qu'on va faire levier sur le trafic de votre site pour justement repérer les gens qui vont avoir de la valeur ajoutée pour vous. Les gens qui vont poser des questions, les gens qui vont répondre à des questions, mais surtout ceux qui vont être le plus remerciés pour l'aide qu'ils apportent à d'autres visiteurs. Et ces gens-là, on va leur donner accès à une plateforme qu'on appelait la plateforme des ambassadeurs, qui est une plateforme qui leur est totalement dédiée. Le but de cette plateforme, justement, c'est de les fidéliser, de les animer dans le temps. Comment on va le faire? Par différentes techniques, ce qu'on appelle la gamification. Donc on a créé des classements pour les profils très chasseurs, des gens qui veulent être les meilleurs partout. On leur donne la possibilité de se situer parmi la communauté. On a aussi créé des trophées, une sorte de badge. On en a 9 en tout. Chaque badge récompense un comportement spécifique sur la plateforme avec des niveaux d'étoiles, comme vous voyez là, bronze, argent et or. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont leur donner envie de revenir le plus souvent possible sur la plateforme. Et enfin, le côté social, avec la possibilité pour tous vos ambassadeurs de se rajouter en amis et de parler entre eux au travers de salons. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec des communautés assez importantes qui vont passer 2, 3, 4, pour certains 5 heures par jour à échanger entre eux sur des sujets globaux, surtout liés à l'univers du site. Alors, par exemple, chez L'Oréal Paris, on a Christiane, Manon, Lisa, qui en plus de se faire des nouveaux amis et de passer du temps sur la plateforme, répondent à des questions des visiteurs sur le site de L'Oréal Paris. Alors, par exemple, les 3, Christiane, Manon, Lisa, en 12 mois, elles ont chacune aidé plus de 3800 visiteurs chacune. Ça matérialise vraiment l'impact que peut avoir une communauté dans la stratégie marketing, la stratégie digitale d'une enseigne comme L'Oréal Paris. Donc une fois qu'on a repéré Christiane, Manon et Lisa, comment on va créer de la valeur pour vous? Comment on va activer ces personnes? Par 3 moyens en réalité. 1, l'entraide visiteur. 2, plutôt une partie analytique. Toutes les discussions qui vont avoir lieu sur vos pages, on va pouvoir les analyser, comprendre s'il y a des problèmes de navigation, des freins à la conversion potentielle. Et enfin, créer du contenu utilisateur qu'on va publier sur vos pages. Donc, l'entrée de visiteurs, bon, bah, c'est ce que je vous ai dit juste avant. En laissant la possibilité à tous les visiteurs de votre site de parler entre eux, les gens, naturellement, vont se prendre au jeu. Ils vont commencer à poser des questions, répondre à des questions. C'est comme ça que chez des clients comme Celio, L'Oréal Paris ou Top Achat, on a plusieurs milliers de questions qui sont posées chaque mois. Et donc plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de réponses chaque mois. Ça fait beaucoup d'interactions qu'on va être capable ensuite d'analyser. En fait, l'idée, ça va être de comprendre page par page quels sont les problèmes que rencontrent vos visiteurs. Quand vous allez les laisser parler, ils vont vous dire en gros ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils ne comprennent pas et quels sont les points de blocage, quels sont les freins à la conversion potentielle pour vous. Alors j'ai pris, on a plein d'exemples en réalité. Alors chez ProMode, on s'est rendu compte que les femmes ne trouvaient pas les jeans taille haute. C'était pas très bien indiqué, il y avait des problèmes de navigation. Justement en identifiant, en captant ces signaux dans les discussions, on leur a dit qu'il fallait faire évoluer leur site. Et c'est comme ça qu'ils ont fait évoluer légèrement l'arborescence de leur page. Et que depuis qu'ils ont fait ça, on a remarqué qu'il y avait 10% de ventes en plus sur les jeans taille haute sur le site de ProMode. La dernière étape, c'est la création de contenu utilisateur. En fait, ce qu'on va faire, c'est que page par page, pour chaque URL, on va être capable d'identifier les questions récurrentes que se posent vos visiteurs et qui peuvent, par exemple, bloquer la conversion. L'idée ensuite, ça va être de cibler tout ce contenu qui peut être intéressant de réintégrer sur certaines pages pour ensuite le publier. L'effet, il est double. Un, impacter la conversion de l'ensemble de votre audience. L'idée, ça va être d'apporter les bonnes réponses de votre communauté à des questions récurrentes qui peuvent bloquer la conversion. Et c'est comme ça qu'on va toucher 100% de vos visiteurs. Et deux, évidemment, travailler sur votre stratégie d'acquisition de trafic, de référencement naturel. On a remarqué chez la plupart de nos clients que les discussions qui avaient lieu sur leur page étaient liées aux mots-clés sur lesquels ils travaillaient pour leur stratégie SEO. Donc, tout ce contenu, on est capable de le réintégrer, de le publier sur vos pages et donc de nourrir votre stratégie de référencement naturel. Voilà, pour finir, parler de quelques-uns de nos clients. On a environ 70 clients aujourd'hui. On est très présent dans le fashion retail et cosmétiques, mais de plus en plus dans de nouveaux secteurs, chez Leroy Merlin, chez Rue du Commerce. On se lance là dans de nouveaux secteurs, chez Bonduel, chez Auchan, chez Intermarché dans les prochaines semaines. Voilà. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Michael, sans C, sans H, at tokiwoki.com. Merci beaucoup.
Bonjour à tous, je suis Guillaume Elma, je suis cofondateur et CEO de Realitics et moi aujourd'hui je vais vous parler de publicité télé. Mais d'abord en introduction, je vais faire un petit parallèle sur la publicité digitale. Ce qu'il y a de bien sur le digital, c'est qu'on va pouvoir faire de la publicité de plein de manières différentes et surtout le point commun avec tous ces leviers, c'est qu'à chaque fois on va pouvoir mesurer et on va pouvoir optimiser son investissement. Ce qui fait qu'en tant que marketeur, eh bien, on va pouvoir mesurer l'efficacité et surtout pouvoir dégager un retour sur investissement par rapport à notre publicité digitale. Maintenant, si on regarde la publicité de manière générale, on voit que le digital, ça pèse lourd, c'est 2 milliards d'euros l'année dernière en France. Mais si on regarde l'offline, c'est-à-dire la télé et la radio, mais surtout la télé, on voit qu'on a investi deux fois plus en télé. On a mis près de 4 milliards l'année dernière en télé. Et le paradoxe, c'est justement qu'on investit plus, mais on ne mesure pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule mesure qu'on a sur la télé, c'est l'audience, c'est les points de GRP, c'est médiamétrie. Et en tant qu'annonceur, eh bien, on ne peut pas vraiment savoir quelle a été réellement la performance d'une campagne de publicité offline en termes de trafic, en termes de vente, en termes de création de compte, etc. Et surtout, ben, aujourd'hui, évidemment, on ne va pas faire qu'un certain type de pub, on va avoir plusieurs canaux. Et ces canaux, ben, on va essayer d'utiliser les forces de chacun, de chaque canal et de pouvoir ben, combiner tout ça. C'est ce qu'on appelle le cross-canal, l'omnicanal, etc. Enfin, il y a plein de termes pour ça. Et surtout, bah, aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez basique quand on est sur le digital de jouer un petit peu tous ces leviers. Mais quand on a une stratégie qui va aussi inclure de l'offline, télé ou radio, bah, c'est là qu'on se pose la question. Comment est-ce qu'on fait pour connecter la télé? Comment est-ce qu'on fait pour l'organiser dans cette stratégie pour faire en sorte de tirer le meilleur de la télé et combiner ça avec du digital? Aujourd'hui, on se pose la question et la réponse, bah, elle n'est pas évidente. Et en fait, elle n'est pas évidente. Pourquoi ? Parce que la télé, elle est en train de muter. Elle est en train de muter et la pierre angulaire de cette mutation, c'est la data. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la télé. Et nous, chez Realitics aussi, on y participe. La data arrive, il y a des modes de consommation qui évoluent. Il y a notamment le fameux deuxième écran, vos smartphones et vos tablettes que vous utilisez quand vous regardez la télé. Eh bien, c'est un changement de consommation du média et c'est quelque chose qui va nous permettre justement de créer de la data pour connecter la télévision. Notre solution s'appelle Realytics. C'est une plateforme qui permet de mesurer l'impact online des publicités offline. On va faire le pont entre la publicité télé et radio et ce qui va se passer sur le digital de l'annonceur. Alors, comment ça se passe ? On a une plateforme qui repose sur trois piliers. D'abord, la mesure. Donc, on va avoir une plateforme d'analytics qui va utiliser les données de l'annonceur et qui va créer de nouvelles données, de nouveaux indicateurs. Ces données-là, ça va nous permettre d'optimiser. Donc, de la même manière que ce qu'on fait sur le digital, on va avoir des indicateurs qui vont nous permettre de savoir où est l'audience télé qui nous intéresse. Est-ce que cette audience, quand elle vient, elle regarde des produits ? Est-ce qu'elle crée des comptes ? Est-ce qu'elle achète si on est un e-commerçant ? Et le troisième pilier, c'est toujours d'utiliser ces données-là, et cette fois-ci de connecter la télévision vraiment dans un scénario où on va pouvoir réutiliser ces données pour amplifier l'efficacité de notre campagne télé, mais cette fois-ci sur le digital. Donc la mesure, c'est très simple. On repose sur le fait que les gens utilisent leur smartphone et leur tablette quand ils regardent la télé, et puis quand il y a une pub qui les intéresse, ils vont utiliser cette tablette, ils vont aller sur le site de la marque qui vient de faire un spot. Nous, notre plateforme, c'est une plateforme d'analytics qu'on a combinée à une technologie qui nous permet de détecter en temps réel les spots de publicité à la télé. Et grâce à ça, on va pouvoir mesurer l'effet drive to web, c'est-à-dire les gens qui vont venir sur le site suite à la diffusion d'une pub. Et en faisant ça, on va pouvoir justement savoir quel est exactement le retour sur investissement d'un spot, d'une chaîne, d'une journée, d'un créneau horaire, etc. Et donc ces données-là, on va les rassembler dans un dashboard en temps réel. Et donc pour chaque spot, chaque chaîne, etc., on va pouvoir savoir à partir de nos données, quel va être vraiment le retour sur investissement. Quand je dis nos données, c'est si je me mets dans la peau d'un annonceur, moi le but c'est pas de savoir quelle a été l'audience, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai eu comme trafic, est-ce que ça m'a créé un compte, est-ce que j'ai des gens qui m'ont demandé un devis, qui ont créé un compte, qui ont acheté, si oui combien, est-ce qu'ils ont acheté plusieurs fois, etc. Donc on va utiliser les données de l'annonceur pour créer ces indicateurs-là. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement une fois qu'on a ces données-là ? On va reprendre la même philosophie qu'on a sur le digital. C'est-à-dire que quand on est sur le digital, sur AdWords, par exemple, on va se dire, moi j'ai un objectif de coût d'acquisition et je vais essayer d'utiliser les bons mots-clés. On peut faire la même chose avec la télé. On ne va pas utiliser le CPC, le coût par clic, mais on va utiliser le coût par TV visite. On a repris cette notion-là, on l'a appliquée à la pub télé. On va aussi pouvoir savoir quelles sont les chaînes, quels sont les types d'émissions qui vont nous générer une audience qui va acheter, qui va vraiment générer du revenu et on va pouvoir justement se baser là-dessus. Et puis, de manière générale, on va pouvoir avoir des données qui vont enrichir notre strat média. C'est exactement ce qu'on a fait avec Webus, qui aujourd'hui utilise la télé comme levier d'acquisition, au même titre que AdWords, du SEO, etc. Et le dernier volet, c'est la partie amplification. Comme je vous l'ai dit, on crée de nouvelles données, on va attribuer en fait des gens au canal télé. Pour nous, la télé, c'est un canal d'acquisition, au même titre que Google, au même titre que le display, etc. Donc on attribue ces gens-là à la télé, et de la même manière que ce qu'on va le faire sur le digital, on va être capable de retargeter ces gens-là. On a des gens qui ont vu un spot, qui sont venus, mais qui n'ont pas forcément donné suite à leur visite. Et on va pouvoir leur remettre le même spot télé, mais cette fois-ci sur le digital, sur Facebook, sur YouTube, etc. De la même manière, c'est-à-dire qu'on a vraiment un scénario cross-média, même cross-écran, qui est disponible aujourd'hui, qui s'active vraiment en quelques clics dans notre plateforme. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Déjà parce que ça marche. C'est-à-dire que quand on regarde les performances du retargeting télé par rapport à du retargeting site, généralement on a une meilleure performance. Pourquoi ? Parce que la télé, c'est un média premium, c'est-à-dire c'est un bel écrin pour une marque, ça met bien en avant le produit et surtout on a des gens qui vont être très engagés. Le fait de prendre son téléphone, de taper le nom de la marque, de venir sur le site, c'est très engageant. C'est autrement plus engageant que de cliquer sur une bannière, des fois même par erreur. Et surtout, on va pouvoir retargeter cette population-là et uniquement celle-là sur le digital grâce à ces créations télé, ces spots télé qu'on va avoir. Et puis aussi, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que nous, en tant que solution de data, on crée un silo de données. Et aujourd'hui, dans une stratégie où on va essayer de casser ces silos, le but, c'est pas de créer un silo tout seul. Donc, on le casse directement en proposant des segments de données qu'on va pouvoir réinjecter partout et même aussi, par exemple, dans des DMP ou autres. Et globalement, pour terminer, nous, notre vision, c'est que le média évolue et surtout, la télé, il y a vraiment une grosse mutation, c'est même une révolution. C'est-à-dire que depuis 1985, les achats médias sont régis par les audiences. On mesure des audiences, on achète des audiences. C'est ce que fait Médiamétrie. En 1985, il y avait 6 chaînes, c'était facile. Maintenant, si on regarde aujourd'hui, en 2016, on a plus de 100 chaînes. On a les chaînes TNT, on a les CAPSAT, On a eu l'IPTV qui est arrivé. Maintenant, on a le catch-up, le replay, qui sont des choses qui vont être à la demande. Et finalement, aujourd'hui, tout ça s'est complexifié. L'audience ne suffit plus. Et nous, en fait, sur les produits qu'on propose, eh bien, c'est tout simplement de révolutionner la publicité télé, mais surtout de proposer un autre mode d'achat de la publicité télé, cette fois-ci qui va être guidée par un objectif business, celui des annonceurs et des agences avec lesquelles on travaille. J'imagine que le sujet vous intéresse, donc je ne vais pas m'étendre et je vous propose qu'on se voit juste après si vous avez des questions par rapport à ça. Merci beaucoup.
Bonjour à tous, donc quatrième et dernière start-up, BrainIt, Jonathan Ivesco, cofondateur. BrainIt, c'est extrêmement simple, c'est une plateforme qui permet à tous les consommateurs de partager toutes leurs idées innovantes avec toutes les marques. On a rencontré plus de 300 grands groupes depuis le début de l'année et elle nous confirme que écouter ses clients et surtout faire quelque chose des idées clients, c'est leur priorité du moment. Donc c'est exactement ce que dit Richard Girardot de Nespresso. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous perdez énormément d'intelligence collective. Vous en perdez vis-à-vis de vos clients parce qu'ils ne savent pas où partager leurs idées avec vous. Donc ils le font sur trop de canaux qui sont très généralistes. Donc vous perdez cette info et vous avez du mal aussi à sélectionner les idées. Ça vous prend énormément de temps à les prioriser et puis in fine à les exécuter. Et donc nous, on va vous accompagner sur ces trois thématiques de façon assez simple. Donc la première brique qu'on appelle l'idéation, ça permet à tous vos clients de partager leurs idées à tout moment, soit de façon spontanée. Donc je vais dire par exemple, et si dans les trains SNCF, tous les sièges étaient tout le temps dans le bon sens? Je pense qu'un certain nombre d'entre nous partageons cette idée, cette envie. Donc elle va remonter parce que les gens vont plébisciter l'idée, ils vont l'enrichir avant même que la SNCF entre dans la conversation. Ou, à l'inverse, et c'est hyper important d'avoir ce dialogue dans les deux sens, la SNCF va lancer toute une série de problématiques sur lesquelles ils travaillent en ce moment. Donc, par exemple, ils ont lancé une thématique sur comment rendre nos gares plus propres. Et donc, ils ont reçu des centaines d'idées en quelques semaines qui ont été déjà priorisées et enrichies par la communauté. Et ensuite, la SNCF est entrée dans la conversation et puis a labellisé l'idée avec différents labels d'avancement pour être dans la co-création et suivre cette avancée d'idées par la suite. Et donc, c'est ce que nous ont remonté. Donc là, vous voyez quelques exemples de challenge d'idées sur les différentes problématiques. Donc là, ce qui est important, et vous connaissez tous très bien ici l'innovation, au moins en tant que nous, c'est important de couvrir l'ensemble de l'expérience client et d'onboarder un maximum de divisions, parce que vous avez sûrement tous tout un tas de sujets sur lesquels vos divisions travaillent et souhaiterait avoir de l'insight client en temps réel. Et donc, ça va de l'hypermarché de demain pour Auchan, sur comment rendre le brossage des dents familial chez Signal, etc. Et donc, on s'intègre, on essaye de capter le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que sur brainit.com et sur nos applications mobiles, et les applications, 60% du trafic et de la génération d'idées vient du mobile, vous apporte le multimarque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vos clients n'ont pas forcément le temps d'aller tous les jours sur votre site, vous partager des idées, suivre ces idées, les enrichir. Et donc, c'est là que le multimarque est intéressant. On est installé aujourd'hui sur sncf.com, hein, c'est en live, vous pouvez aller voir. Donc là, il y a 5 millions de visiteurs par mois qui se connectent sur sncf.com, mobile également. Et donc là, on va capter cette audience-là. Et cette audience-là, on la met après à profit des autres marques via le multimarque, en disant par exemple télécharge l'application BrainIt. Donc quelqu'un qui parle à la SNCF au départ va partager aussi des idées pour Auchan, pour Signal, qui sont aussi des marques qui l'intéressent. Et donc on capte les clients lovers très actifs sur le site des marques et puis ensuite les autres clients qui sont souvent une majorité et voire des prospects sur nos sites BrainIt. Et donc sur les 300 grands groupes qu'on a rencontrés, on a déjà signé avec une trentaine d'entre eux, ils nous ont dit c'est pas suffisant de collecter des idées. Ok, on en perd 90%, avec BrainIt on est déjà ravis de collecter 100% des idées consommateurs et d'en faire quelque chose, mais on a besoin de vous pour aller plus loin dans l'analyse, donc faire de la segmentation. Par exemple, on va travailler avec Air France. Air France, ils ont besoin de savoir quelles sont les priorités des voyageurs business versus leisure, en fonction de leur aéroport de départ, par exemple. Et donc ça, c'est des segments qu'on définit ensemble au départ, et a posteriori des challenges d'idées, on fait des analyses de segmentation pour identifier les priorités clients. C'est très important de le faire, je dis beaucoup important, mais c'est vrai, c'est très important de le faire post-challenge parce qu'une bonne idée ou un bon enrichissement d'idées peut venir de n'importe qui. Donc il ne faut pas fermer au départ, mais il faut analyser a posteriori. Et ensuite, on fait de la sémantique, évidemment, pour vous remonter les grandes tendances globales et puis par segment. Et enfin, on vous aide sur l'exécution. Parce qu'aujourd'hui, vous perdez énormément de temps et d'argent, voire des opportunités, des idées qui n'auront jamais été mises en œuvre alors qu'elles sont capables de vous générer des millions d'euros récurrents tous les ans. Donc, on vous aide sur la partie exécution. Donc, comment on fait ça? Eh bien, il faut que ça se fasse aussi sur BrainIt. Et donc, il y a un certain nombre d'idées qui vont converger grâce aux analyses. Vous allez décider d'en faire un projet en mode agile et puis d'avoir des résultats à 3, 6 mois, 9 mois et 1 an. Et donc, vous allez créer ce projet directement sur BrainIt. Vous allez inviter des collaborateurs à venir participer au projet avec différents rôles parce que tout le monde n'a pas le même temps ni la même expertise. Et puis, vous allez créer toute une série de tâches hein, comme sur un gestionnaire de projet classique. Donc, on va très loin quand même sur BrainIt avec des objectifs, avec des deadlines et vous assurer que tout ça avance bien en temps et en heure, voir les bottlenecks s'il en existe et puis restaffer en fonction de ça. Et donc, vous allez voir que vous allez avoir trois grands bénéfices à utiliser BrainIt. D'abord, vous l'avez compris, c'est de l'innovation en continu. C'est de l'innovation incrémentale. Par exemple, et si Auchan mettait des rayons périmés bientôt dans ses hyper? Donc ça, c'est un coût zéro. C'est une réorganisation des rayons. Mais les gens sont en recherche de ça. Et en plus, ça va leur générer du chiffre d'affaires parce que ces stocks, ils n'arrivaient pas à les écouler jusque-là. Donc, c'est de l'innovation en permanence. C'est de la relation client. Parce que les marques, à un moment, entrent dans la conversation. Et je vous invite à aller voir les réponses d'Auchan, de la SNCF. Ce n'est pas juste merci pour votre contribution, on va y réfléchir. C'est on l'a testé, on a eu ce problème-là, il nous manque ça et ça, comment on pourrait co-créer ce nouveau produit ensemble? Et donc, ça va être de la relation très positive. La SNCF, qui est quand même une des marques les plus faciles à critiquer, et je pense que leur community manager sur Twitter et sur Facebook, je l'admire complètement. Sur BrainIt, c'est hyper rafraîchissant parce qu'ils ont reçu des milliers d'idées là en 8 semaines qui sont tournées vers l'amélioration de l'expérience. Et puis ensuite, on dit toujours le client est au centre. Ça, on l'entend partout, dans toutes les organisations que je rencontre, je l'entends. Sauf que moi, en tant que client, je n'ai pas l'impression d'être au centre. Et donc là, BrainIt, ça vous permet, à vous tous collaborateurs de vos différents grands groupes, d'aller voir ce qui se dit sur votre marque, de lancer vos problématiques, et de suivre tout ça. Et vous avez un vrai canal où vous voyez ce que le consommateur, vos consommateurs, parce que il faut que ce soit priorisé, sinon vous êtes incapable de savoir quelles sont les grandes tendances. Et donc vous avez ça à portée de main en permanence. Je vous ai présenté la plateforme consommateur, mais en fait on a plein de grands groupes qui nous ont dit c'est exactement ce dont on a besoin en interne également. Parce que l'open innovation en externe, c'est super. On cherche des outils collaboratifs en interne. On a des réseaux sociaux d'entreprises excellents comme Yammer. Nous, voilà, on va s'interfacer et on va faire la brique d'idéation, d'innovation collaborative. Donc, on reconnaît la syntaxe d'adresse de votre groupe et on donne accès à cette plateforme. Et là où on est très différenciant et on va être un game changer, c'est qu'on va leverager les synergies de la plateforme consommateur. C'est-à-dire que chacun d'entre vous, vous êtes d'abord consommateur. Pour moi, vous êtes d'abord consommateur. Et donc, vous allez probablement utiliser BrainIt pour parler aux marques qui vous intéressent. Et vous allez voir que vous avez des notifications de vos différentes divisions qui ont lancé des challenges et qui vous répondent en interne. Et donc ça va vous faire revenir énormément sur votre plateforme collaborateur, parce qu'aujourd'hui, ce que nous disent nos clients EDF, par exemple, qui l'utilisent pour 50 000 collaborateurs, c'est qu'ils l'avaient fait en propre et ils avaient énormément de mal à faire revenir les collaborateurs, parce qu'ils ont leur business as usual, ils sont objectivés là-dessus. Et donc ça permet de faire le lien et de s'assurer de l'animation et de la rétention. Voilà, donc c'est exactement ce produit-là. Ça ressemble complètement à BrainIt, c'est juste un SaaS fermé. Et il y a un bouton de passerelle à la fois sur mobile et sur web pour passer de la plateforme consommateur à la plateforme collaborateur. Donc nous, l'important aujourd'hui, c'est, on a rencontré, comme je l'ai dit, 300 grands groupes. L'important aujourd'hui, c'est de leur procurer une expérience extraordinaire. Donc on ne vous vend pas juste la solution. On est une équipe à Paris d'anciens consultants notamment, et on a travaillé aussi dans les grands groupes. On est là pour vous accompagner. Donc on travaille les challenges d'idées avec vous, on met en place techniquement la solution aussi et on active les différents leviers de communication parce que c'est une initiative hyper positive à communiquer. De dire on innove ensemble, co-créons ensemble, inventez le Auchan de demain avec nous, Voilà, donc c'est quelque chose de très très sexy et ça va vous rapprocher de vos clients en plus de vous permettre d'innover en continu. Merci beaucoup.
Merci. Merci Jonathan. Moi j'aurais qu'un seul mot de conclusion, c'est j'attends celui d'entre vous qui grâce à Realytics pourra effectivement mesurer l'impact de ces campagnes, pour ensuite le leverager en interne avec Tokiwoki pour transformer ces gens-là en ambassadeurs et utiliser Brainit pour générer un peu encore plus de valeur là-dessus, avant évidemment d'utiliser aussi ses collaborateurs avec Sociable pour parler à de ses meilleurs clients. Voilà, ce sera ma conclusion pour aujourd'hui. J'ai plus de carte de visite, évidemment, je les ai sous-dimensionnées. Encore une fois, christophe.show@microsoft.com. Je suis à votre disposition pour vraiment aider personnellement chacun d'entre vous à aller travailler dans un écosystème comme ça de start-up, à aller trouver les meilleurs, enfin ceux qui viennent juste après ceux d'aujourd'hui, je veux dire, non, c'est pas vrai, il y en a d'autres. Voilà, et ce sera au plaisir de vous rencontrer quand vous voulez. Au revoir.